Bonjour. Bonjour les amis, c'est toujours une parenthèse pour moi de quitter plusieurs naissances des journées de festival, deux photocalls, deux conférences de presse pour venir ici. Je tiens quelques minutes et après je reviendrai pour une partie du déjeuner. Et là, je ne fais que dire quelques mots d'introduction pour ce petit moment lumière. Et encore une fois, en saluant le président Costa Garas, qui lui vient comme restaurateur de films, comme auteur de films, comme tout, etc. Bon. Et surtout, je voudrais remercier le CNC, Sarah, Laurent, Dominique et toute l'équipe de la Cinémathèque française, puisque elle co-organise cette journée en 2025. Dieu que ça passe vite, ce sera déjà les 130 ans du cinéma. Ça passe vite parce qu'il y a 30 ans, non, il n'y a pas 30 ans, mais bon, si, il y a 30 ans, nous célébrions le centenaire du cinéma. Qu'à l'époque, on avait voulu, enfin, ils avaient voulu, à Paris, vous savez, depuis Lyon, eux à Paris, là, appeler ça le premier siècle. Genre, il y aura un deuxième siècle. C'était d'ailleurs très bien vu, puisque 30 ans après, le cinéma est toujours là et plus que jamais. Et puis, il y avait quand même quelque chose à l'époque où on voulait un peu dire que l'invention du cinéma avait été collective, ce qu'on n'avait jamais cessé de dire tous, mais il y a toujours, un peu comme pour les Jeux Olympiques, un sentiment français anti-français, donc un sentiment de célébration anti-lumière, alors que la raison pour laquelle on célébrait ce moment-là était précisément cette idée à peu près commune que tout commence, tout s'achève et tout recommence en 1895 avec un Lumière au cœur de ça, dernier des inventeurs, premier des cinéastes. Et à l'Institut Lumière, nous n'avons jamais cessé, comme dans d'autres endroits, de célébrer évidemment Lumière, ou bien de rouvrir le musée Lumière, et nous préparons avec le CNC, qui a toujours été extraordinairement présent autour de Lumière, et je voulais vraiment avoir une pensée pour Michel Aubert, qui était la cheville ouvrière et la reine des abeilles en même temps ce ressurgissement physique, Lumière, de ces restaurations qu'à notre tour, nous reprenons. On est déjà plus de 500, travaillant main dans la main avec Bois d'Arcy, avec Béatrice et ses équipes. Et vous allez donc voir, entendre Maëlle, qui porte aussi une partie de ça, de ce territoire-là, l'Institut Lumière, avec Jean-Marc Lamotte, qui lui aussi, puisqu'on parlait de Napoléon, a connu très bien Louis Lumière, tellement il passe sa vie à ça comme un moine cistercien, et puis Béatrice de Passe, que je voudrais tout à fait remercier, elle, Dominique, tout ça dessus, parce qu'on va parler du catalogue Lumière, du nouveau catalogue Lumière, on va parler des restaurations, elles vont parler d'une plateforme aussi de Lumière que nous sommes en train d'élaborer afin qu'on puisse disposer, en basse définition, non téléchargeable, mais enfin les Russes arrivent toujours à trouver quelque chose pour que les gens qui n'ont jamais vu un film de Lumière de leur vie, ni s'y sont intéressés, se retrouvent à s'épater d'un truc fait en intelligence artificielle, en couleur, complètement refait, en disant qu'est-ce que c'est bien. Non, les films Lumière sont bien pour ce qu'ils sont. On ne rajoute pas des merdes, des putains et des fucks dans le texte de Proust pour le moderniser. Donc on ne modernise pas les films Lumière, ni non plus les films de Jacques de Baroncelli, chère Sophie. On les prend tels qu'ils sont, et à la fois Béatrice, qui garde tous ses négatifs, et puis Elena et David et toute l'équipe de Bologne qui nous aide avec Maëlle à les restaurer, on fait en sorte que ces films redeviennent soit ce qu'ils furent et soient vus dans les conditions dans lesquelles sont vus. Il y a un deuxième film Lumière aussi qui est également en fin de préparation, qui sera prêt pour l'automne. Une série de rééditions également. Je veux aussi avoir une pensée pour Bernard Charder qui nous a quittés à l'automne dernier. On a réédité ses livres. La correspondance aussi des frères Lumière, qui est tout à fait formidable, les échanges entre Louis et Jules Carpentier, son ingénieur, le constructeur des 400 premiers exemplaires du cinématographe. Bref, je vous laisse la parole, je retourne là-bas, et surtout ne dites pas que je suis venu en tant qu'Institut Lumière. Je ne voudrais pas aggraver mon cas auprès de Mediapart. Donc voilà. Merci en tout cas, nombreux, pour assister à cet exposé.
Bonjour à tous et merci au CNC de nous donner la parole sur ces projets Lumière qui s'accompagnent depuis toujours aux côtés de l'Institut Lumière. On a, comme le rappelait Thierry Frémaux, depuis qu'on a eu la charge de la part des héritiers de Louis Lumière de représenter la famille Lumière, la mémoire familiale Lumière, toujours défendu ardemment cette production exceptionnelle, qui est la première production cinématographique de l'histoire, dont on parlera de la qualité incroyable de la conservation de ce patrimoine, de ce tout premier patrimoine. Et on a toujours eu à cœur de le faire découvrir de façon la plus ample possible. Il y a eu dans ces dernières années, depuis le centenaire, beaucoup d'opérations d'envergure pour faire connaître ce patrimoine et en particulier les films eux-mêmes, une série de restaurations de films en 2015. On avait même, quand on a ouvert le Festival Lumière, la première édition du Festival Lumière, la soirée d'ouverture à la Halte Nivernais devant 5000 personnes, c'était avec 100 films Lumière commentés par Thierry Frémaux. Il y avait également un accompagnement musical à l'accordéon par Marc Perron. Ce qui était une façon pour nous de, évidemment, cet institut Lumière, créer un festival à qui, quand on réfléchissait au nom, on a voulu qu'il s'appelle Lumière aussi, et c'était important pour nous de faire découvrir ces films. Il y a eu également, au moment des 120 ans, cette exposition gigantesque au Grand Palais, Lumière, le cinéma inventé. Un projet très ambitieux qui a ensuite circulé. Il a été présenté à Bologne, il a été présenté au Musée des Confluences à Lyon, à Évian. Je précise qu'en vue des célébrations des 130 ans, l'année prochaine, cette exposition qui est modulable est à disposition pour continuer à circuler et à faire vivre la mémoire Lumière. Toutes ces années également, Thierry Frémaux a beaucoup accompagné. Pendant le centenaire, c'était beaucoup avec Bertrand Tavernier aux États-Unis, mais autrement, partout dans le monde, la présentation des films qu'il faisait en les commentant en direct. Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir vu Thierry Frémaux commenter en live la présentation d'un corpus de films Lumière. Et tout ça, voilà, a contribué évidemment avec toutes les différentes d'autres opérations, à la connaissance de ce corpus. Et voilà, l'idée était de vous présenter quels étaient les projets en cours en vue de la célébration des 130 ans du cinématographe l'an prochain. Le premier projet d'importance qui a commencé il y a quelques années qui est la restauration d'un nouveau corpus de films. Il y a 300 films qui sont en cours de restauration 4K à l'Imaginary Provata, avec le soutien du CNC, évidemment, qui est à nos côtés. On avait fait, je l'ai dit, en 2015, une série de restaurations. On était sur un corpus de 113 films qui avaient, là aussi, été très majoritairement aidés financièrement par le CNC et en complément par ce qui était à l'époque la HFPA, qui a désormais changé de nom, qui était à nos côtés. Là, on cherche, de la même manière, la Golden Globe Foundation nous accompagne sur le projet des nouvelles restaurations. Dans ce corpus de films restaurés, et d'ailleurs je précise qu'on parle, il y avait dans le catalogue Lumière, numéroté, 1400 vues Lumière. Les vues Lumière, là aussi, un petit rappel, les films ou vues Lumière sont des films sur des pellicules 35 mm, de 17 mètres de pellicule, donc les films font 50 secondes, et ce catalogue, dont, alors on y reviendra, le nombre de vues lumière est plus important que ces 1400 vues numérotées, mais c'est ce catalogue qu'on entend évidemment restaurer en 4K dans les années à venir avec cette nouvelle série de 300 films. Et pour commencer, je voulais interroger, enfin, donner la parole à Béatrice de Pastre sur justement ce corpus de films, sur leur préservation à Bois d'Arcy et la spécificité de ce corpus et justement la qualité de la... le caractère quasi complet de cette production.
Oui, bonjour. Oui, c'est tout à fait étonnant de se dire effectivement que la première production de l'histoire du cinéma, en fait, c'est la production qui est quasi complète encore dans nos réserves. Étant donné qu'effectivement, ces 1420 et quelques films ont été rassemblés suite à un appel international dans les années entre 93-94, pour qu'effectivement toutes les archives à travers le monde fassent parvenir au CRC les éléments qu'ils avaient de la production lumière. Il y avait dans les collections de l'Institut Lumière et dans les collections de la Cinémathèque française beaucoup de négatifs qui étaient issus de l'histoire de la collection de l'usine Lumière, mais tous nos collègues à travers le monde sont venus compléter ces deux ensembles de négatifs, ce qui font qu'effectivement on a pu reconstituer cette collection quasi complète. Et ça c'est en termes, on va dire, de volume, de numéros de catalogue, mais ce qui est aussi tout à fait étonnant, c'est encore le bon état physique de ces éléments, qui nous rappelle aussi que les Lumières étaient des ingénieurs chimistes, des photographes, et qu'ils savaient très bien travailler les émulsions photographiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une matière première pour les restaurations absolument, absolument étonnante. Alors la perforation ronde aussi, typique du cinématographe, a certainement fait aussi qu'on ne pouvait pas tirer les films dans n'importe quelle machine. Donc, ces négatifs n'ont pas été sollicités par d'autres machines que des cinématographes, ce qui explique aussi la qualité certainement de certains supports.
Et donc, merci. Et effectivement, c'est assez exceptionnel quand on travaille en restauration de voir la qualité du matériel duquel on part pour initier les restaurations. Je voulais donner la parole à Nathalie Macaro, qui est responsable de ce projet de restauration pour l'Imaginerie Trovata. Je précise que pour la première série en 2015 de restauration, les scans avaient été faits à Bologne et les restaurations par éclair. C'est désormais, les deux opérations sont désormais portées par l'Imaginerie Trovata. Et on voulait justement vous donner le type de travail qui a été fait sur chacun de ces films, parce qu'il faut se rendre compte qu'une centaine de films pourrait être l'équivalent d'un long métrage d'une durée de 130 minutes, d'une heure et demie, pardon. Et en fait, pour chaque film, se pose un problème, une question spécifique, et que ça rend évidemment ces restaurations un projet assez... Alors, passons après Napoléon. On trouve que notre projet est assez modeste, mais néanmoins, la restauration des films Lumière, c'est la restauration de 300 films. Donc un film comme Napoléon, c'est énorme, et puis 300 films Lumière de 50 secondes, c'est aussi important. Et c'est 2000 boîtes, absolument, pour identifier le meilleur élément, etc. Donc je voudrais que Elena Tamacaro nous parle et évoque cette question des restaurations.
Merci Maëlle, bonjour. En fait, c'est un défi complètement différent, mais pas plus simple que ça. C'est pas seulement la longueur. En fait, sur les 300 titres, les éléments qu'on a dû prendre en considération pour procéder à la restauration sont plus de double, parce que les éléments que les CNC et vous, de l'Institut Lumière, vous avez sélectionnés pour procéder à la restauration sont exactement 625. Donc c'est ça la quantité des éléments qu'on a reçus seulement pour ces 300 films. Et C'est pas donné aussi que c'est toujours l'énigme qui est disponible. Donc souvent, on a aussi tous les éléments qui sont scannés et analysés. Et c'est le cas pour, en fait, sur les 300 titres restaurés, sont plus de 400 qu'on a, desquels on a fait le scan pour pouvoir procéder. Ce qui disait Béatrice, c'est en fait, ça nous étonne toujours parce que l'état de conservation des films est vraiment très très bon et donc ce ne sont pas beaucoup les cas où on a des problématiques, des compositions du support par exemple ou des fragilités du support et des problématiques sur l'émotion, mais ça arrive quelquefois, sans vraiment pas beaucoup de cas. Mais ce que je voudrais aussi vous expliquer dans quelques minutes, c'est un peu la façon de procéder pour ce film, parce que vous pouvez imaginer que pour une quantité comme ça des éléments, il faut absolument garder des listes très très ordonnées. Et ça est fait toujours à partir des listes déjà existantes, parce que bien sûr, tous les films lumières sont dans un catalogue, les CNC, quand nous envoyons les éléments, nous avons aussi des listes très très précises qui sont à la base aussi de notre base de données à l'intérieur du laboratoire pour continuer notre travail. L'importance de la documentation sur ce film, c'est très important et elle fait pour chaque élément qui passe au labo. Pour chaque élément, nous créons un rapport, et c'est un rapport d'inspection, que c'est la première étape que nous faisons quand on reçoit les éléments au labo, et qui est enrichi pendant le travail de toutes les interventions que nous faisons sur les éléments, surtout pour la remise en état mécanique qui nous permet le scan. Et la remise en état mécanique sur ces films est faite au minimum parce que on cherche de ne pas faire des interventions sur les éléments originaux pour risquer de les abîmer. Vous imaginez comment la fragilité et combien de scars sont délicats en fait pour le fond. Et aussi, il y a dans l'étape d'inspection une étude des éléments. Qui est la chose très très importante en fait, c'est pas seulement que les éléments ont été bien préservés, mais aussi que dans les années, les éléments ont été objets des interventions de préservation, qui nous permet d'avoir à disposition plusieurs éléments du même film. Et donc, quand il arrive qu'il y a des problématiques, par exemple sur l'énigme, on peut toujours accéder, pas toujours, mais pour la plupart, accéder à des éléments de préservation intermédiaire qui étaient déjà des éléments d'époque, en fait. Et comme on peut voir dans cette photo, c'est un cas où on a en fait aussi un positif moué, un contre-type avec perforation lumière. Et beaucoup aussi des éléments, en tout cas préservés, dans des 35 mm de bonne perforation standard. Donc, la choix d'éléments, quelquefois, et l'étude des éléments peut être plus complexe pour certains titres, si surtout l'énigme n'est pas l'élément qu'on peut utiliser. J'ai juste préparé quelques photos pour vous montrer quelle peut être les typologies des ruptures ou des problématiques que nous trouvons sur les éléments lumière. Donc, des simples déchirures sur le côté perforation qui sont réparées au minimum quand nécessaire pour garantir le passage dans les scans, ou des ruptures un peu plus graves, disons, comme des déchirures côté perforation, mais même sur l'image. Ou des vraies ruptures, mais ça c'est vraiment un cas sur, je ne dis pas sur les 300, mais presque en fait, où en fait la capacité de mes collègues de l'ARM est mise en fait un peu à l'épreuve et, pour faire des reconstructions très importantes sur l'image. Toujours seulement finalisé le passage dans les scans. Donc on ne fait pas d'intervention qui ne sont pas nécessaires sur cet élément-là. Des autres typologies, comme aussi des problématiques comme des réparations d'époque, que normalement nous refaisons juste parce que les réparations d'époque aussi peut créer une épaisseur qui peut compromettre la mise au point du scan. Et les peu de cas où on a trouvé des problématiques plus graves, comme vous pouvez voir par exemple le support très fragile et sèche qui peut en fait créer cet effet gondolé qui, à niveau des scans, porte une perte de feu et une déformation, des moisissures sur côté émulsion ou plutôt des interventions de lacage et des patines. Ce que vous pouvez voir dans cette photo, je ne sais pas si avec cette lumière vous arrivez à le voir. C'est en fait, sont 8 films seulement qui ont ces problématiques de cette patine blanche. Et dans certains cas, en fait, cette problématique nous a empêché de pouvoir utiliser les négatifs. Juste pour se concentrer un moment sur vraiment ces 8 cas, sur 625 éléments, donc très très peu. Mais je profite aussi pour vous donner une idée de comment cette problématique de la patine blanche peut se transformer sur, peut être visible en fait sur l'image et compromettre donc quelquefois l'utilisation de l'IME, pas dans ce cas parce que dans ce cas encore récupérable, mais à niveau de restauration d'image, ces problèmes peuvent en fait plutôt grave. Voilà, je termine juste en vous montrant des images du scan. Donc le scan que nous utilisons pour les lumières est la RISCAN. C'est un prototype de film d'archive qui nous permet de faire un scan sprocketless et qui donc n'utilise pas les perforations pour faire avancer le film. Et qui nous permet aussi de faire un scan à la main, ça veut dire que nos opérateurs scan positionnent le film image par image dans la fenêtre du scan quand on a des cas un peu plus graves comme des détachements d'émotion, qui aussi c'est quelque chose qui sur ces films arrive. Et en fait, juste pour vous donner un numéro final, chaque film, plus ou moins chaque élément, donc lumière de 50 mL, ça fait plus ou moins 800 images et la vitesse du scan est plus ou moins 0,4-0,5 images par seconde. Donc voilà, j'ai terminé.
Merci. Merci Elena. C'était vraiment passionnant de voir, de suivre le travail qui est encore en cours, sur, notamment sur ces 300 films, à quel point, on le disait tout à l'heure, mais chacun des films présente des caractéristiques différentes. Parfois le négatif est impeccable et il est très facile de travailler dessus, ou pour quelques cas, pas de la reconstruction, mais en tout cas, comment il faut retravailler le matériel pour le scanner et ensuite le restaurer. Et on trouvait important de vous montrer le résultat de ces restaurations en cours, et notamment on a choisi quelques films à montrer alors j'espère que la projection rendra hommage à la qualité des restaurations. Là on est c'est absolument splendide, on est sur le film qui s'appelle Champs-Élysées. Vous voyez la qualité de la restauration Champs-Élysées, tournée en 1896. On voit les fiacres et les calèches des Champs-Élysées. Toujours cette profondeur de champ assez stupéfiante chez Lumière. Donc voilà, ça c'est plus typique des films Lumière, on dirait un tableau impressionniste. C'est vraiment l'esprit du temps de cette fin du 19e siècle. Ensuite, ça, c'est un film tourné à Alger. Non. Là, c'est départ de la place du gouvernement, qui est maintenant la place des martyrs à Alger, puisque les frères Lumière, les Lumières ont envoyé des opérateurs tourner des films partout dans le monde. Et on a ainsi dans le corpus Lumière des films aux origines géographiques extrêmement nombreuses, ce qui est évidemment, vous voyez, la splendeur de ce plan auquel l'opérateur a mis le cinématographe dans le tramway, créant ainsi un mouvement qui n'était pas possible puisque l'appareil était fixe sur son trépied. Et là, l'inventivité de l'opérateur, certains opérateurs ont fait ça, là c'est Alexandre Rio, Gabriel Bert aussi faisait ça, de créer un mouvement d'appareil. Là, on est sur un film de 1896 aussi, chargement du coq. On voit que ce sont les femmes qui travaillent à ce chargement du coq et ce combustible proche du charbon. Plus vraiment. Et là aussi, hein, vous voyez, c'est aussi une thématique très présente dans les films Lumière, les gens au travail. Souvent, tous les films sont tournés en extérieur, c'est souvent des gens au travail à l'extérieur. Et c'est assez passionnant de voir justement un train qui n'existe plus. Vous voyez sur ces films, les bords ronds. On a fait l'escale et la restauration avec l'intégralité de l'image, évidemment. Là, on est sur le port de Marseille, plan sublime également, avec les voiles des bateaux, les cordages, c'est absolument magnifique. Et tout c'est ça marche au poisson, hein, avec... On voit deux petits garçons qui pêchent sur le côté, ces femmes avec leur panier de poissons. Et c'est voilà, là c'était vraiment pour rendre hommage à la fois à la conservation, à la qualité de la conservation des éléments et à la restauration assez absolument magnifique, magnifique de ces films. Voilà, on s'est arrêté là. Je précise qu'avec entre les 300 films qui sont en cours, les 113 qu'on avait fait en 2015, il y a également ajouté dans la liste des films restaurés, du corpus de films Lumière restaurés, le fait que on nous sollicite fréquemment, et c'est l'Institut Lumière qui s'occupe de cette partie pour proposer des films, et j'y reviendrai, des films Lumière, et parfois pour divers usages, et parfois c'est l'occasion de restauration, puisque le client en question souhaite un film qui n'est pas encore restauré, et en fait la restauration, ce qui fait que là, sur les 300 en cours, on en est à environ 200 qui sont restaurés, il en reste encore 100 dans cette... Mais ce qui porte à 350 pour l'instant, les films restaurés disponibles, terminés, du catalogue Lumière. Donc voilà, bientôt 100 de plus pour terminer et une centaine de plus pour terminer. Et on réfléchira avec le CNC à voir pour la suite. Donc voilà, ça c'était une des parties importantes en cours. Et un autre des projets est un site internet dédié à Lumière qui était un peu pensé... Au début, on voulait faire une plateforme avec le film, mais on élargit un peu le projet. Alors, on ne va pas le montrer tout de suite, ouais, avant de le lancer. Parfait. Ce site, c'est... l'objectif du site, c'est, qui ouvrira donc en 2025, c'est rendre disponible au plus grand nombre à tout l'environnement, enfin tout ce qui existe autour des films Lumière. Les films eux-mêmes, l'idée est de... d'ouvrir le site avec une cinquantaine de films, alors que des films restaurés, on l'enrichira progressivement, avec une cinquantaine de films et tous les mois, rajouter une trentaine de films, de nouveaux films restaurés. On fait de cette manière-là parce que on sait notre force de frappe au niveau de la communication à l'Institut Lumière, et ça nous permettra tout au long de l'année 2025, au moins une fois par mois, de communiquer sur Lumière en disant, en invitant les gens à venir découvrir les nouveaux films disponibles sur ce site, et sur la partie plateforme de ce site. Et ça permettra de rendre, de créer l'événement autour de lumière pendant toute l'année au lieu de tout livrer d'un coup. Et puis ça permettra d'avancer les restaurations, on aura toujours un petit coup d'avance sur les restaurations, mais comme ça d'alimenter ce site internet. Le visionnage sera gratuit. Tous les films seront montrés dans leur intégralité. Il y aura une petite watermark sur le côté en bas à gauche, à droite de l'image. Vous allez voir ça. Non téléchargeable en français et en anglais. Tout le site sera dans les deux langues. Et les fichiers seront en HD, mais enfin très légèrement compressés, mais non téléchargeables. On le redit, c'est vraiment pour de la consultation. Et c'est un peu la continuité d'un travail muséal qu'on fait avec le Musée Lumière qui présente beaucoup de films Lumière, mais de le rendre à l'ère du numérique très, plus disponible. Et alors je précise sur ce site a été mis en place par l'Institut Lumière avec le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'appel à projet patrimoine numérique. À hauteur de 40 000 euros, donc c'est pas négligeable, et la DRAC, dans le cadre du patrimoine national de numérisation et valorisation des contenus culturels, à hauteur de 30 000 euros. Donc c'est un budget qui nous permet d'être ambitieux sur le site, qui est donc concepteur et Novius, et la conception graphique est faite par les équipes de l'Institut Lumière. Et je voulais vous présenter, alors c'est vraiment un work in progress, on tâtonne encore, même sur le nom. Collection Lumière, même ça on n'est pas sûr, donc vous verrez ça évoluer, mais on va se promener dans le site, alors dans le home page, c'est pas celui-là, voilà, donc là c'est donc à l'ouverture du site, voilà, avec la barre de menu classique. Vous voyez, tous les films seront disponibles, on pourra cliquer là. Il y a des thématiques, des films lumières créés par, répertoriés par thématique, et beaucoup de suppléments autour, le non-film autour de lumière, et la version en anglais. Et là, c'est vraiment l'esprit un peu plateforme, avec un visuel et le titre du film quand on se baladera sur cette première image pour ensuite pouvoir voir les films. Il y a une petite vidéo également des fiches films. Donc là, c'est avec, vous voyez, la notus documentaire sur les films, la possibilité de visionner intégralement le film avec le titre watermark particulier, le numéro de la vie, vu. Un texte, voilà, le texte, les mots-clés, les lieux, hop, la fiche technique, ce qui permettra de se promener dans tout le site pour passer et pour découvrir par différentes entrées l'intégralité des films disponibles sur le site et encore une fois qui seront enrichis régulièrement. Donc on a décidé de créer des catégories de. Donc, comédie, etc. Sur ça, là, on est suivant, là. Enfin, oui, là, c'est là, on peut montrer la vidéo qui répertorie qui montre la page avec tous les films, où on pourra faire des recherches, évidemment, par mots-clés ou des recherches filtrées qu'on aura préalablement définies. Mais l'idée, même par on a les recherches par mot-clé par exemple, par opérateur ou par lieu de tournage. Donc cette navigation est une navigation assez classique de référencement d'un corpus comme celui de Lumière avec les films, je pense que c'est Gabriel Deur, je sais pas. Voilà. Et il y aura. Je disais au début, le projet était vraiment une plateforme avec les films Lumière. On a élargi ça en imaginant plutôt un site global et avec cet aspect plateforme, avec pour pouvoir mettre toute la littérature autour de Lumière, tout ce qui est disponible autour de Lumière à disposition du grand public, mais des chercheurs, etc. Et notamment, là, on peut montrer la vidéo, les vidéos suivantes sur tout ce qui concerne le non-film. Voilà. Donc, par exemple, on va avoir sur les catalogues Lumière, on va y revenir, un texte sur le catalogue, la possibilité de feuilleter un catalogue, le catalogue Lumière de l'époque, que les Lumières éditaient pour la commercialisation de leur film. Il y a plusieurs catalogues, mais aussi on y reviendra. Mais on souhaite vraiment que ce site soit le plus complet possible, et il évoluera régulièrement pendant au fil de l'année. Il sera enrichi régulièrement au fil de l'année. C'était une décision, voilà, d'être progressif dans le. Alors, il sera ouvert avec quand même du matériel déjà disponible à l'ouverture, mais que ce soit progressif dans ce qu'il présente. Je vais vous montrer la petite vidéo suivante. Voilà tout ce qui est un article sur le cinématographe, avec à la fois du texte, une petite vidéo, des photos disponibles, ce qui permettra aussi aux gens qui font des recherches sur tout ça de savoir ce qui existe et de pouvoir ensuite nous contacter, et on orientera vers les bonnes personnes pour se procurer une photo, un film ou autre. Voilà. Mais ça va être l'un des grands, comme on l'avait fait en 2015, en 2025, l'un des grands enjeux de cette célébration, de faire découvrir les films Lumière dans les meilleures conditions possibles, par la restauration et par une exposition très variée de tout ce qui existe autour de Lumière. Voilà pour le site. Il y a aussi, mais je regarde le temps, je vais passer un peu, non, pas tout de suite. Il y aura des suppléments, mais je ne retrouverai pas la vidéo suivante là. Je vais passer tout de suite à un autre projet qui est lié au souhait de d'éditer un nouveau catalogue des films Lumière. Bertrand de Basse va nous refaire un historique des catalogues, mais de dire que ce projet assez considérable en termes d'édition d'un nouveau catalogue Lumière se démarque des précédents catalogues par l'ampleur, ça nous paraissait important de ne pas être juste un catalogue avec comme une base de données, avec un numéro de film, un titre, etc., mais vraiment l'étoffer, de rassembler un peu la littérature autour de Lumière. Mais je voudrais, Béatrice, que tu nous redises un peu quelle est l'histoire des catalogues Lumière à l'époque des Lumières et du plus récent fait par le CNC.
Oui, c'est une histoire par couche, on pourrait dire. Vous avez vu, Maëlle a bien montré des listes. En fait, le catalogue Lumière, c'était des listes qui ont été éditées par la société A Lumière et ses fils, puisque ce n'était pas les frères Lumière, mais c'était une société qui se référait à Auguste Lumière. Et donc, la société va éditer plusieurs listes en 1897, c'est-à-dire que c'est des catalogues de vente, en fait. Hein. Il faut vraiment se mettre dans cette idée aussi, c'est que la société Lumière est une société industrielle et qui vend des films, et donc les listes des films que vous pouviez acheter, programmer, étaient éditées régulièrement. Donc on a, je crois, 7 listes différentes jusqu'en 1905. Et donc le dernier catalogue d'époque Lumière s'arrête en 1905. Donc nos collègues en 1995 ont rassemblé ces différentes listes, se sont également appuyés sur une liste qui est conservée à la Cinémathèque française, qui est la liste annotée par Lumière lui-même au moment où, par l'entremise de Georges Saloul, Louis Lumière va donner à la Cinémathèque française sa collection de films. Et Louis Lumière va cocher les films qu'il dit avoir réalisés. Donc, ces différents documents ont permis de faire le catalogue de 1995, qui a été organisé par thématique. Tous les films ont été renumérotés. Ce qui permet aux lecteurs, en fait, de se retrouver soit par ville, soit par thématique. C'était un classement géographique. mais qui ne permettait pas en fait de restituer ces différentes couches de lys. Donc, il y a une dizaine d'années, avec la Cinémathèque française et l'Institut Lumière, on a décidé, pour des raisons aussi purement techniques, parce que la technique de documentation des films avait beaucoup évolué, les normes documentaires ont évolué, et puis aussi les informations qu'on a pu avoir sur les différents films étaient très nettement augmentées. Et surtout, on s'était rendu compte qu'au-delà des 1420 numéros du catalogue, en fait, on avait beaucoup plus de matière. On parlait pour 300 films, il y a 620 éléments. Eh bien, les opérateurs lumière n'avaient pas de viseur. Et très souvent, pour faire un film qui est inscrit au catalogue, il y avait parfois 3 prises. Et restituer ces différentes prises, restituer aussi les films qui n'étaient pas inscrits, au moins en avoir une trace, nous paraissait vraiment important, puisque ça permettait de restituer aussi l'histoire d'une entreprise commerciale. Par exemple, sur la ville de Toulouse, il y a 4 films lumière qui ont été tournés à Toulouse, projetés à Toulouse, mais dans le catalogue, il n'y en a qu'un qui est inscrit. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu une adaptation, on va dire, commerciale à une certaine situation de la production. Et si on ne restitue pas l'intégrité de ces éléments, on ne fait pas la liste de tout effectivement ce qui a été tourné et que l'on conserve aussi, mais on n'a pas une idée de la façon dont travaillaient les opérateurs pour faire la sublime vue en amont, cette Gabriel Vert met la caméra sur un pouce-pouce et filme des enfants qui courent vers lui. Eh bien, il a fait 3 prises. Les 2 premières, elles sont un peu bancales. Eh bien, ça permet aussi de voir que c'était de vrais techniciens, des hommes qui avaient vraiment une conscience du cadre, mais que cette conscience du cadre, on allait travailler. C'est faire une vue lumière, c'est un travail, et justement la possibilité de voir ces différentes prises nous permet aussi de restituer la qualité du regard et du travail des opérateurs lumière. Donc d'un côté, une entreprise vraiment commerciale, industrielle, c'est le début de l'industrie du cinéma et de la commercialisation du cinéma, et ce travail permet de restituer ces deux axes qui avaient été un petit peu oubliés en fait dans ce premier catalogue. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en 30 ans, eh bien, il y a énormément d'informations qui sont à notre disposition. Les archives à travers le monde cinématographique, mais aussi les bibliothèques, ont numérisé énormément de leurs collections. Donc, ce qui nous permet d'avoir des sources qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Donc, on a pu enrichir notre connaissance de ce qui est représenté à l'image d'une façon exceptionnelle, qui permet aussi de restituer, d'essayer de comprendre pourquoi les opérateurs sont allés à tel ou tel endroit, pourquoi est-ce que ça a paru important à ce moment-là de filmer tel ou tel endroit. Là, il y a 3 semaines, on a pu identifier des bâtiments filmés à l'occasion d'une exposition en Suède, parce qu'on a retrouvé le catalogue officiel de cette exposition de 1897. Et on voit exactement à quel endroit les opérateurs sont allés filmer. Donc, une richesse en fait du catalogue augmenté.
Et donc, ce catalogue sera édité dans la collection qu'on a, ce partenariat historique à l'Institut Lumière avec Actes Sud. Donc, ça sera édité avec eux. On est en train de caler, on n'a pas encore finalisé ni le budget ni le financement, mais c'est en cours. Mais ça représente, quand vous voyez, il y aura une page, on peut juste voir le visuel, c'est encore là aussi une maquette, une page par film. On a parlé de 1422 films répertoriés, mais il y en a bien plus au final, donc vous imaginez
200.
Voilà, 200 plus, donc vous imaginez un tout petit peu à une page par film la taille de l'ouvrage, de ce catalogue, mais ça nous paraissait important de faire état de toute cette avancée de connaissances sur chacun des films. Autre projet, je vais aller vite parce que l'heure tourne, mais qui est important, le projet d'un deuxième film de Thierry Frémaux sur les films Lumière. Il avait historiquement, et je le disais tout à l'heure, toujours fait une sélection de films Lumière qu'il présentait en live, etc. Et en 2015, il fait ce premier film qui met à l'honneur les films lumière, puisqu'il n'y a à l'image que des films lumière, c'est pas un documentaire avec des interviews, etc. C'est vraiment les films lumière sont, sont au centre de ce film Lumière, l'aventure commence. Et il prépare un deuxième film à partir des choisis parmi, avec une centaine de films choisis par les 300 en cours de restauration pour continuer ce travail. Je rappelle que le film Lumière, l'aventure commence, qui est sorti en 2017, a fait 136 000 entrées en salle, ce qui est quand même une source de grande fierté pour nous, parce que c'est des très beaux chiffres. On espère atteindre le même chiffre avec ce deuxième film. Il a été vendu dans 33 pays par Wild Bunch, il est sorti en salle par Ad Vitam. Et voilà, on travaille. Et Thierry a annoncé la sortie du film pour cet automne. Je crois qu'on sera plutôt début 2025, mais ne lui dites pas. Mais c'est parce que c'est pour l'anniversaire des 130 ans, donc on repousse un peu. Mais c'est, ça fait partie, il faut se rendre compte que toutes ces actions ont permis aussi un intérêt renforcé sur les films Lumière, l'exposition, le film évidemment de Thierry, qui permet un intérêt et des ventes de droits de films, à la fois des musées dans le monde entier. Des musées nous sollicitent pour proposer des films Lumière dans des expositions diverses et variées, pour des documentaires. Vous voyez parfois des documentaires à la télévision où il y a des films Lumière, même pour des longs métrages. Dans le dernier Babylone de Damien Chazelle, on a vendu un film lumière, il y a un petit film lumière à la toute fin du film. Et tous ces projets pour 2025 ont pour ambition justement de rendre de plus en plus présents ces films lumière, de les faire connaître, de les diffuser, de les faire circuler. On a préparé, même si on manquait de temps, mais ça dure 1 minute 30, la bande-annonce. Alors là aussi, c'est en cours, mais de ce deuxième film de Thierry Frémaux. Là, il y a du son, c'est le seul où il y a un peu de son, puisque le premier film, il avait, alors c'est pas les mêmes problématiques que Napoléon, il avait utilisé la musique de Camille Saint-Saëns, un contemporain des Lumières. Là, c'est Gabriel Fauré. On n'est pas du tout dans les reconstructions musicales, mais donc vous allez entendre la musique de Gabriel Fauré donc, pour ce deuxième film de Thierry sur les Lumières.
Pendant l'été 1894, Antoine Lumière, père de Louis et Auguste, découvre à Paris le kinétoscope de Thomas Edison. Il faut faire sortir l'image de cette boîte, dit-il, et la projeter devant un public sur un grand écran. Je rentre à Lyon, mes fils trouveront. Thank you.
paraissait important de terminer avec quelques images, que vous ayez quelques images, lumière sous les yeux. Je profite pour remercier à nouveau le CLC avec qui on fait tous ces projets autour de lumière et on fêtera tout ça tous ensemble en 2025. Merci Elena, merci Béatrice et merci à tous pour votre attention. Je vous remercie.